Bonjour, et bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi avec Elisabeth pour finir de lire l'évangile de Luc. Alors justement, dans la réception de l'évangile, on évoque aussi comment le bestiaire de Saint-Luc est présent dans cet évangile. En fait, Luc est assimilé au taureau. Alors, dans l'Apocalypse de Jean, on dit une description des quatre vivants. Un lion, un taureau, un homme et un aigle.
Oui, c'est ce qu'on appelle le tétramorphe, qu'on trouve dans beaucoup de sculptures, beaucoup de chapiteaux, beaucoup d'églises. Et ça viendrait du livre d'Ézéchiel. Et c'est saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, qui est le premier à interpréter ce tétramorphe en disant que les quatre vivants représentent chacun un des quatre évangélistes.
Voilà, alors pour Luc, le taureau, pourquoi ?
Alors, on pense que l'évangile de Luc, qui est de caractère sacerdotal, commence par le prêtre Zacharie qui offre à Dieu le sacrifice de l'encens.
Oui, souvent on sacrifiait les bestiaux aussi.
Oui, il était déjà préparé, dit Irénée, le veau gras qui sera immolé. Et alors, c'est une interprétation christique du veau gras qui est dans la parabole du fils prodigue. Et c'est une interprétation nouvelle.
Oui, parce que là, quand même,
oui.
Le veau gras est... Enfin bon, ça ferait un doublé avec le sacrifice du Christ.
Oui.
Donc ça me paraît un peu...
Oui.
Bon, pourquoi pas. En tout cas, on peut repérer que ce tétramorphe a inspiré Gucci dans la sculpture du mobilier de la cathédrale de Chartres,
oui.
Puisque Lambon a ses très belles représentations du taureau, entre autres. Là, la représentation du taureau, ça vraiment, j'ai le dans l'œil, elle est vraiment très, très belle, un jeune bestiau. Bon, alors la crèche aussi.
Ah oui, la crèche.
C'est Saint-François d'Assise, souvent.
Oui, elle date, Saint-François d'Assise l'a inventée, si on peut dire, au XIIIe siècle. Et dès cette époque-là, on retrouve l'enfant Jésus entouré d'un âne et d'un bœuf.
Non, il y a les bergers, ils viennent avec leurs moutons peut-être, donc il y a toujours des petits moutons qui traînent par-ci par-là, mais il y a toujours le bœuf et l'âne. Alors on dit, le bœuf c'était pour réchauffer l'enfant.
Oui.
Parfois c'est ce qu'on dit. Et tout de même, effectivement, ils apparaissent ces deux animaux dans les versets prophétiques. Isaïe, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Et puis, c'est Jésus qui évoque dans l'évangile le fait que si le bœuf ou l'âne tombe dans le puits, eh bien, on va plutôt l'en retirer, même le jour du sabbat.
Oui.
Donc, on établit ces relations entre ces bêtes qui sont présentes dans la crèche et les bêtes qui apparaissent dans les évangiles. Autrement, il y a quand même une autre manière de recevoir l'évangile de Luc, c'est dans le Concile Vatican II. Et là, Luc de Villers nous propose une réflexion sur comment cet évangile de Luc a inspiré, ou en tout cas est cité plusieurs fois dans les documents de Vatican II. Alors, dans la constitution Lumen Gentium, il y a les évangiles de l'enfance, notamment autour de Marie.
Oui, parce qu'il est rappelé dans Lumen Gentium que, surtout depuis le Concile d'Éphèse, le culte de peuple de Dieu envers Marie a connu un merveilleux accroissement sous les formes de la vénération et de l'amour, de l'invocation et de l'imitation, réalisant ses propres paroles prophétiques qui sont tirées de Luc. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses.
Bon, il y a aussi écouter et observer la parole de Dieu. Et on avait rencontré dans la lecture de l'évangile de Luc qu'il était un peu sévère vis-à-vis de sa famille en disant Bienheureux plutôt ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu, comme Marie le faisait elle-même. Et puis aussi, la mission de l'Église, mission du Christ, mission de l'Église. On reprend un certain nombre de choses de Luc.
Oui, le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris, c'est dans Luc 4, chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est aussi une citation de Luc.
Et puis, l'instauration des 12, là, on le retrouve dans Marc, dans Matthieu, mais aussi dans Luc. Avec le fait que les évêques succèdent aux apôtres et que les prêtres doivent être également comme de bons pasteurs en quête de ceux qui, malgré le baptême, ont abandonné la pratique et les sacrements ou même la foi. Dans d'autres constitutions, et notamment la constitution sur la parole de Dieu,
oui, il est rappelé,
Dei Verbum,
oui, qu'il faut méditer la parole de Dieu pour en vivre. Ça s'appuie sur des citations de Luc.
Et puis l'unité des deux testaments. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. On va reprendre cette idée-là.
Alors, la Constitution dit « Encore que le Christ ait fondé dans son sang la nouvelle alliance, néanmoins les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, atteignent et montrent leur complète signification dans le Nouveau Testament ». Auquel ils apportent en retour lumière et explication. Et on avait vu que Luc fait des références constantes à l'Ancien Testament ou au Premier Testament.
Et alors notamment en 4:21, lorsque le Christ, après avoir cité Isaïe, dit « Aujourd'hui, cette parole se réalise ». Alors elle se réalise parce que lui instaure la nouvelle alliance, mais elle se réalise aussi aujourd'hui. Lorsque nous lisons l'Évangile, c'est marqué « Aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres », etc. Et l'actualité de cette parole, elle nous concerne nous aussi, c'est-à-dire comment nous aussi aujourd'hui, on se sent concerné par la parole qui fait voir les aveugles, danser les pauvres, et, etc. C'est-à-dire qu'on a la continuité entre Isaïe, Luc et nous-mêmes.
Oui.
C'est tout à fait intéressant. Et puis autrement, bien sûr, dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps.
Il y a une référence à Luc 16, qui est l'histoire du pauvre Lazare, que chacun considère son prochain sans aucune exception comme un autre lui-même, tienne compte avant tout de son existence, des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement, et se garde d'imiter ce riche qui ne prit nul souci du pauvre Lazare.
Alors, c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre d'autres textes du Concile. Le décret sur la vie religieuse, le décret sur l'apostolat des laïcs, envoyés en mission, eux aussi. Le Seigneur les envoie encore une fois en toute ville et en tout lieu où il doit aller lui-même. C'est en Luc 10, 1. Et puis sur l'activité missionnaire de l'Église.
Parlant de lui-même, le Christ a dit ces paroles. C'est dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par son onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue.
Et encore, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et ce qui a été prêché par le Seigneur doit être proclamé et répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il y a aussi un autre aspect de l'héritage de Luc, mais il y a beaucoup d'héritage aussi des autres évangélistes, c'est dans le domaine artistique. Et alors on connaît par exemple le retour du fils prodigue.
Oui, qui est un des tableaux de Rembrandt les plus connus.
Oui, qui traîne partout lorsque l'on parle de la réconciliation avec ce magnifique tableau. Et puis, beaucoup d'autres, bien sûr. Alors finalement, depuis le Concile, l'évangile de Luc fait partie des évangiles qui sont lus une fois tous les 3 ans, en essai, c'est-à-dire notamment cette année. C'est Luc que tous les dimanches, on lit de ses péricopes pour l'évangile le dimanche. Mais on a aussi évoqué Luc avec le féminisme. Alors on a vu qu'il était soucieux, qu'il parlait des femmes. Et quelques-uns disent, ben non, il en parle mal.
Alors... Oui. Alors il y a des exégètes féministes qui dénoncent la récupération des femmes par Luc. Des femmes qui sont soumises au pouvoir des apôtres, au pouvoir patriarcal des apôtres.
Bon, alors, toute analogie avec la situation actuelle, est... ben, vous pouvez la faire si vous voulez. Hein. Souvent, elles sont pécheresses repenties, femmes aisées au service des apôtres. Et nous dit Luc de Villers, dont on s'inspire pour faire cette émission, cette position excessive mérite discussion. Parce que Luc est aussi montré comme étant associé à des couples ou bien associé à des femmes, et non pas simplement Priscille, par exemple, n'est pas confinée à la cuisine, mais participe pleinement à l'évangélisation et à la formation chrétienne des adultes. Donc, voilà, pour Luc. Alors, c'est un évangile à, peut-être, à lire et à redécouvrir. Et puis, c'est vrai que Luc est un des évangélistes qui nous raconte beaucoup de choses qui ont amené les prières, les fêtes. On peut rappeler tout simplement que dans la prière quotidienne de tous, le cantique de Marie, le cantique de Zacharie, le cantique de Siméon sont dits tous les jours, que le verset du Gloire à Dieu est dans la messe tous les dimanches.
Et que puis, l'Ave Maria aussi, le Je vous salue Marie, est en partie inspiré de Luc, des paroles d'Élisabeth à Marie.
Donc, Luc, un évangile à lire et à relire. Sur ce, on peut terminer en relisant aussi ce passage extraordinaire que l'on cite toujours, où le Christ lui-même fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est l'évangile du Fils prodigue.
Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »
Eh bien là, on perçoit que cet évangile de Luc, c'est l'évangile qui nous montre un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous attend, qui attendait le retour de son fils et qui attend aussi peut-être notre retour. Et bien sur ce, on vous dit bonne semaine à tous, au revoir.